Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Politiquement Vôtre, votre émission politique mensuelle imaginée par les acteurs sociaux des centres Houdinet et Goscinny dans le but de permettre à la nouvelle génération de s'exprimer sur des sujets qui la concernent directement et acquérir une vision plus précise de ce qu'est la politique et la façon dont elle affecte leur vie quotidienne. Aujourd'hui, nous allons accueillir pour cette émission la députée communiste Elsa Fossillon et nous sommes accompagnés de trois jeunes qui ont 17 ans et qui sont en BAFA citoyen, Anissa, Tatiana et Maëlys. Comment vous allez les filles ?
Bien,
ça va et vous ?
Contente de participer à l'émission ?
Oui.
Ouais.
Super. C'est la première fois que vous participez à ce genre d'émission ?
Oui.
Ouais.
Est-ce que vous connaissez Elsa Fossillon ?
Non, pas du tout.
Eh bien, très bien, on va apprendre à la connaître aujourd'hui. Et moi, je vais vous présenter un petit peu pour que les filles puissent se faire une idée de qui vous êtes. Alors, Elsa Fossillon, vous êtes née en 1980 à Amiens, comme Emmanuel Macron, ce qui est peut-être votre seul point commun avec le président de la République.
Je confirme.
Vous avez grandi ensuite dans votre fief des Hauts-de-Seine avec vos parents, tous deux adhérents à la CGT. Comme beaucoup de jeunes de votre génération, votre engagement politique s'est renforcé avec les manifestations contre le contrat première embauche, le CPE, que tentait d'imposer en 2006 le Premier ministre de l'époque, un certain Dominique de Villepin. S'ensuit une adhésion au PCF, puis diverses prises de responsabilité. Secrétaire départemental du PCF 92 en 2013, conseillère municipale de Gennevilliers en 2014, puis conseillère départementale en 2015. C'est en 2017 que vous accédez à des responsabilités nationales puisque vous êtes élu député, un siège que vous garderez aux élections législatives de 2022 et 2024 où vous êtes réélu triomphalement avec 64% des voix dès le premier tour. Première question pour vous Elsa Fossillon, comment avez-vous vécu la période des législatives ?
Alors déjà bonjour à toutes et tous et ravie de me prêter à cet exercice et ravie surtout que ça existe en fait, qu'il y ait des espaces comme ça où justement... les plus jeunes puissent eux-mêmes être acteurs et actrices finalement d'acquérir comme ça des connaissances sur l'univers politique, surtout que souvent les discours politiques viennent beaucoup à exclure finalement les jeunes à la fois des décisions mais même de ce qu'on leur dit. Donc ravie de participer. Deuxième chose, comment j'ai vécu des législatives ? J'imagine comme beaucoup de gens d'abord très surprise parce que je m'y attendais pas. Et très en colère aussi de voir la dissolution arriver alors que les élections européennes avaient placé l'extrême droite en tête. Donc très en colère contre Emmanuel Macron. Et ensuite très inquiète aussi parce que dans ma circonscription, donc la circonscription c'est le lieu où je suis élue, et ça concerne les villes de Colombes, Gennevilliers et Villeneuve-la-Garenne, donc c'est le nord du 92 des Hauts-de-Seine. Et c'est un territoire très populaire. Qui a été un territoire très industriel, avec beaucoup d'ouvriers, maintenant beaucoup d'ouvriers et d'employés, beaucoup de personnes aussi descendants d'immigration. Et donc j'ai constaté que les gens étaient très très inquiets à l'idée que l'extrême droite puisse prendre le pouvoir dans le pays, parce qu'ils avaient peur que le racisme soit encore plus présent, ils avaient peur aussi que les attaques sexistes elles soient encore plus présentes aussi. Donc voilà, un peu tous ces sentiments mélangés.
Je vais m'adresser aux filles. Est-ce que vous connaissez le Parti communiste français ? On en a parlé un peu avant l'émission. Est-ce que, Elsa Fossillon, vous pouvez expliquer ce que c'est que le Parti communiste français, les valeurs qu'il défend et la différence, par exemple, face à la droite, à l'extrême droite, etc.
Je trouve que c'est toujours le plus compliqué d'expliquer ça parce que je ne vais pas faire l'historienne. Donc, le Parti communiste français, déjà, c'est un très vieux parti qui a maintenant plus de 100 ans. Vous connaissez peut-être plutôt des partis plus récents, peut-être les Verts. Europe Écologie Les Verts, ça vous parle ? La France Insoumise, ça vous parle ? La France Insoumise, ça vous parle. Le Parti communiste, c'est un parti qui se classe à gauche, comme d'ailleurs Europe Écologie Les Verts ou le Parti Socialiste ou la France Insoumise. Mais au sein de la gauche, il y a aussi plusieurs courants, il y a de la diversité. On ne défend pas tous exactement la même chose à gauche. Je dirais que le Parti communiste, il se positionne comme étant historiquement, en tout cas, très à gauche. On aurait plutôt tendance à dire plus à gauche, par exemple, que le Parti Socialiste. C'est un parti qui s'inspire beaucoup des théories de Karl Marx. Je ne sais pas si ça vous parle, parce que c'est encore plus ancien que le Parti communiste.
C'est un vieux philosophe allemand.
Ouais, voilà. Et globalement, si je dois vraiment essayer, non pas de simplifier, mais essayer de vous faire comprendre le plus rapidement possible, c'est un parti qui, au départ, va beaucoup s'intéresser à défendre les travailleurs et les travailleuses de ce pays et à pouvoir lutter pour défendre leurs droits et faire en sorte de lutter contre les injustices et les inégalités. Et par exemple, faire en sorte que face aux patrons, dans les grandes usines, dans les grandes industries, eh bien, les travailleurs puissent être aussi acteurs de leur lutte, que ce soit eux qui mènent la lutte, et pour ça, aider à les organiser pour que leur lutte puisse être efficace et victorieuse. Après, c'est aussi un parti qui est marqué par les luttes féministes, les luttes antiracistes, des luttes très internes. On considère aussi au Parti communiste que la lutte, elle se mène à la fois en France, mais aussi à travers le monde, et qu'il faut des liens aussi avec les autres partis de gauche à travers le monde.
Voilà, c'est pour ça que je vous avais dit, par exemple, que le Parti communiste, c'est celui qui a soutenu l'indépendance de l'Algérie, qui soutient aujourd'hui le combat palestinien, etc. C'est le parti, en fait, de la fin de la colonisation et de l'oppression de toutes et de tous. Voilà. Est-ce que vous avez des questions, les filles, pour le moment? Est-ce que vous avez compris déjà les différences qu'on vous a expliquées?
Oui.
Super. On va passer à la suite. Vous étiez, du coup, à l'Assemblée, il y a des missions qui sont rapportées. Et du coup, on va travailler sur ces questions. Vous, notamment, avant les élections législatives anticipées, vous étiez sur une mission sur les mineurs isolés, qui a été clôturée le 9 juin, si je ne me trompe pas. Donc, en fait, il y avait des missions qui étaient en cours. Et comme il y a eu les élections législatives, et elles ont toutes cessé. Donc, il y a des choses sur lesquelles on travaillait et qu'on ne peut plus, sur lesquelles on n'a plus travailler. Et est-ce que vous pouvez me dire, du coup, ce qu'il en est de cette mission, par exemple?
Alors, une mission d'information à l'Assemblée nationale, quand vous l'obtenez, quand elle s'ouvre, généralement, il y a deux rapporteurs qui sont nommés, donc deux députés qui vont travailler ensemble. Et il faut savoir que c'est un député de la majorité, donc celle qui est liée, celle qui est soit la plus nombreuse, soit celle qui est liée au président de la République. Donc là, c'était le cas, c'était ceux qui étaient avec Macron. Et moi, je suis dans l'opposition à cette majorité. Et donc, on va faire travailler des gens qui, a priori, sont pas tellement d'accord ensemble sur un sujet. Et donc, moi, j'ai travaillé sur les mineurs isolés. Est-ce que vous voyez déjà, quand je parle des mineurs isolés, de qui on parle? Les mineurs isolés, c'est ces enfants venus de l'étranger qui arrivent seuls sur le territoire français. Et qui, alors, ils n'arrivent pas forcément seuls, mais ils peuvent arriver, en tout cas, sans parents ou sans personnes qui vont avoir à s'occuper d'eux. Donc, ils sont pris en charge, normalement. Ils devraient être pris en charge par la protection de l'enfance, par l'ASE. Comme les enfants qui sont sur le territoire français, qui sont nés sur le territoire français et dont les parents ne peuvent pas s'occuper ou des parents qui sont défaillants. Là, normalement, la loi, elle dit que, et même des textes internationaux disent que si un enfant arrive d'un autre pays et qu'il est seul, qu'il n'y a personne pour s'occuper de lui, alors l'État en question doit le protéger. Sauf qu'on voit bien que ça ne se passe pas aussi bien que ça et qu'il y a plein d'obstacles qui sont mis devant ces jeunes pour qu'ils puissent être pris en charge. Donc d'abord, ils doivent prouver en fait qu'ils sont mineurs. Et ça, c'est très compliqué. Ils doivent prouver qu'ils n'ont pas la majorité. Parfois, ils n'ont pas les papiers suffisants pour pouvoir le prouver. Et donc, l'État, il fait une évaluation. C'est les départements d'ailleurs qui le font, les conseils départementaux, pour essayer d'évaluer si ces personnes sont mineures ou pas. Et donc, moi, ce que je constate, et ce qu'on a constaté au travers de cette mission d'information, c'est qu'en fait, plutôt que de chercher à dire « Ok, on te croit et on va faire en sorte de t'accompagner et si on constate que tu es majeur, on trouvera un autre dispositif », il y a beaucoup de choses qui sont faites pour venir dire « Il est suspect, vous voyez, il a dit ça, ça veut dire qu'il n'est pas mineur. » Et donc, globalement, on va plutôt présumer qu'il ment plutôt que de se dire « Ok, je te crois ». Et je vais faire en sorte de t'accompagner au mieux. Et donc, ce rapport d'information, pour le moment, c'est comme s'il n'avait pas existé. Alors même qu'on arrivait à l'écriture du rapport et qu'on avait mené toutes nos auditions, tous nos déplacements. Et ce qui fait que, pour le moment, j'ai aucune assurance que ces travaux pourraient reprendre. Et que donc, ce n'est pas grave en soi, parce que moi, je sais ce que j'ai fait. Mais ça veut dire que je ne peux pas rendre publiques les préconisations, les recommandations qu'on avait faites.
Donc, il est probable que ça reste dans l'état et que ce ne soit pas repris.
Oui, après... Je me fais fort aussi de me dire qu'on a acquis des connaissances on a rencontré des gens et qu'il y a plein de choses que j'ai en tête à pouvoir défendre dans la suite de mon mandat de députée.
Très bien. Maïlys, je vais commencer par toi. Est-ce que tu t'intéressais à la... Pardon, Maïlys, tu es là. Est-ce que tu t'intéressais à la politique quand tu étais petite? Ou est-ce que tu entends parler de ça chez toi, par tes parents, etc.?
Par mon père, oui, mais sinon, de m'intéresser de moi-même, non.
D'accord. Donc, c'est pas quelque chose, c'est quelque chose qui est plutôt loin de toi.
Oui.
Anissa, même question. La politique, tu t'y intéresses, c'est loin de toi. C'est quoi ton rapport aujourd'hui à la politique?
J'en ai aucun.
Aucun. Tu t'estimes très éloignée, très peu d'intérêt. Très bien. Tatiana?
Moi, pareil.
Pareil, très bien. Et donc, Elsa Faucillon, ses deux parents étaient à la CGT. La CGT, c'est un syndicat, c'est la Confédération Générale des Travailleurs. Et moi, je voulais savoir, Elsa Faucillon, est-ce que quand vous étiez jeune, on parlait politique à table ou autour de vous, dans les repas de famille, je ne sais pas?
Beaucoup.
Ça fait déjà une première différence.
Beaucoup. Et puis, au-delà des discussions, parce que je pense qu'ils faisaient attention aussi au fait de parler d'autre chose à la maison que de politique. En fait, comme mes deux parents étaient déjà très engagés et politiquement et syndicalement, en vrai, notre vie, elle tournait quand même beaucoup autour de ça. Donc, bah, moi, j'allais sur leur lieu de travail et leur lieu de travail, c'était la Bourse du Travail, donc le lieu où il y avait ceux qui bossaient pour les syndicats. Donc, bah, j'en entendais encore plus parler. Donc, parfois, moi, je faisais mes devoirs à la Bourse du Travail. Donc, bah, forcément, vous faites des dessins qui concernent un peu les trucs que vous entendez. Et puis, de temps en temps, bah, ma mère, avant de m'emmener à l'école, on allait distribuer des tracts devant une entreprise. Et puis, le week-end, il y avait les manifestations. Donc, forcément, c'est sûr que moi, pour le coup, même si je me suis engagée tard dans un parti politique, j'en ai entendu beaucoup, beaucoup parler, oui.
Très bien. Et quand vous avez trois jeunes, par exemple, qui sont là encore mineurs, puisqu'elles ont tous les trois 17 ans, mais qui seront du coup amenées à voter, par exemple, dès 2027 pour les élections présidentielles, c'est quoi votre discours face à ces jeunes qui sont soit en désintérêt, soit qui ne connaissent pas, ou même qui ont de la défiance vis-à-vis de la politique?
Bah déjà, je pense que c'est bien de ne pas avoir de discours tout fait et de partir de là où elles sont. Et donc, d'aller chercher aussi ce qui peut raccrocher justement à la politique. Donc moi, j'ai envie de dire, qu'est-ce qui vous intéresse dans la vie, par exemple? Et d'essayer de voir, ben, j'en sais rien, si tu me dis par exemple que c'est la musique ou que tu as envie de venir faire, que tu as envie de devenir, je ne sais pas moi, éducatrice ou enfin, ce genre de choses, ben, je vais essayer de voir comment la politique, elle peut raccrocher ce sujet-là. Donc parfois, ça va être simplement le fait que ben, si on parle de musique et si on parle d'un type de musique, par exemple, si, là ça peut être très cliché, mais j'en sais rien, moi le rap, à mon époque, quand on disait qu'on écoutait du rap, c'était très stigmatisé dans les discours politiques, par exemple.
C'est toujours un petit peu d'ailleurs.
C'est toujours le cas. Mais il y avait de la censure qui existe toujours, mais je dirais qu'elle existait encore plus à l'époque. À mon époque, il y avait plein de concerts de rappeurs qui étaient censurés. Bah, je trouve que ça, c'est par exemple une manière de montrer comment la politique, elle se mêle de tout dans nos vies et combien le fait de soi-même pas s'y intéresser, c'est aussi subir des choses qu'on nous impose, alors même qu'en s'y intéressant, en s'engageant d'une manière ou d'une autre, je demande à personne d'adhérer à un parti politique, mais simplement d'être un citoyen qui s'y intéresse, bah, c'est aussi ne pas laisser faire. Et donc, c'est généralement comme ça que j'essaye en tout cas de susciter l'intérêt. Mais je comprends aussi que la politique puisse désintéresser bien des jeunes.
Très bien. Là, en l'occurrence, on est avec trois jeunes futures animatrices. Je ne sais pas si vous connaissez bien les métiers de l'animation, mais par exemple, qu'est-ce que ça vous évoque?
Ben, sur l'animation, moi, ce que d'abord, ben, on peut prendre le plus simple, je dirais, c'est d'abord que les politiques publiques aujourd'hui, les choix politiques font quand même en sorte que tous les métiers liés à l'animation, je pense à l'éducation populaire, mais je pense aussi à la question des taux d'encadrement dans l'animation, tout ça, on a tendance plutôt à vider les moyens qui peuvent exister pour faire en sorte que justement, à la fois, il y ait des espaces pour, pas simplement les jeunes, mais pour tout type de génération, où on puisse continuer à apprendre, pas simplement à se divertir, mais à trouver sa place dans la société. Et que tout ça, c'est des espaces, je pense par exemple aux centres socio-culturels, où chaque année, eh ben, les animateurs, les éducateurs, ils sont obligés de se battre pour aller chercher des moyens, et c'est vrai toute l'année, et ils passent presque tout leur temps maintenant à faire des dossiers d'appel à projets, plutôt que de pouvoir être tournés justement vers le public. Donc ça, c'est des choses certainement que vous allez vivre dans cet univers professionnel. Et pour le coup, ce sont des vrais choix politiques, puisque ça veut dire que l'argent, il va ailleurs, quoi.
Tout à fait. On peut ajouter aussi qu'en tant qu'animatrice, vous serez sûrement amenée à travailler pour des municipalités, ça veut dire pour des villes, et que par exemple, Emmanuel Macron, il a baissé la dotation de l'État aux villes, ça veut dire que les villes reçoivent moins d'argent de la part de l'État, ce qui peut par exemple se répercuter sur vos futurs salaires. Voilà. En ça, par exemple, la politique, ça peut vous concerner. Merci Elsa Faucillon. Vous avez parlé de votre enfance, etc., très proche de la politique. Est-ce que quand on a commencé la politique jeune, qu'on s'y intéresse, est-ce qu'il n'y a pas un danger à un moment, de devenir ce qu'on appelle quelqu'un qui est de la bureaucratie politique, c'est-à-dire de ne pas travailler, de ne pas exercer un métier, de continuer la politique très longtemps et de finalement devenir éloigné des besoins des jeunes ou d'autres.
Si, évidemment, c'est un risque. Et d'ailleurs, je me le dis régulièrement puisque... Alors, je n'ai pas adhéré jeune, parce que souvent, quand on dit qu'on a adhéré jeune, c'est qu'on a adhéré très jeune, par exemple à 17 ou 18 ans, à des organisations politiques de jeunesse, ce qui n'est pas mon cas. Moi, j'ai adhéré à 25-26 ans, ce qui est jeune, mais pas très jeune en politique. Ensuite, c'est vrai que j'ai pris des responsabilités en politique relativement jeune, vers 28-29 ans. Et surtout, j'ai fait que ça, parfois. Donc, j'ai même travaillé pour mon parti politique. Donc il y a ce risque qui existe et je pense que c'est important aussi de se mettre parfois des limites dans le temps, si elles n'existent pas dans la loi, parce que dans la loi en fait il y a des mandats que vous ne pouvez pas cumuler, c'est-à-dire vous ne pouvez plus être maire et député en même temps, mais par contre il n'y a pas de limite dans le temps, vous pouvez faire 7 mandats de député dans votre vie, donc 7 fois 5, pendant 35 ans vous pouvez être député, ça existe. Moi je considère que 2-3 mandats, c'est bien, parce que ça demande beaucoup d'énergie. Mais je dirais qu'on peut aussi être parfois député un mandat et être totalement déconnecté. C'est-à-dire qu'il y a les deux qui sont liés. Il y a la durée, et effectivement, ça peut mener un peu de bureaucratie. Mais il y a des gens, et je pense notamment à ceux qui, pendant le premier mandat d'Emmanuel Macron, étaient députés. Ils étaient, au bout de 2 mois, ils étaient déjà déconnectés. Parce qu'ils étaient déjà déconnectés avant même de la vie. D'ailleurs, on peut ne pas être député, être déconnecté des réalités totalement. Les plus importantes qui existent dans la société. Quand on vit un peu, par exemple, en ghetto de riche, et qu'on ne sait pas ce que c'est d'avoir du mal à finir les fins de mois, quand il n'y a personne dans notre famille qui est resté 2 ans au chômage, quand vous n'avez personne dans votre famille qui bosse 35 heures par semaine, mais qui gagne le SMIC pendant 30 ans. Quand vous n'avez pas de famille monoparentale avec 4 gamins à charge et que pour autant il faut aller bosser et que vous ne savez pas comment aller chercher les petits à l'école, tout ça, en fait, ça fait partie de la vie de millions et de millions de gens. Et on peut très vite être déconnecté si on ne vit pas au milieu des autres. Donc moi, j'ai aussi un engagement qui est depuis le début, qui est de, évidemment, ça peut, enfin, vivre dans ma circonscription, ça me semble normal, mais essayer aussi de vivre le plus auprès de celles et ceux que je défends et que je représente.
Je ne sais pas si les filles vous savez, mais en fait, les députés, ils ont aussi des permanences on peut venir les rencontrer, leur poser des questions. Donc, si jamais vous trouvez que votre député de secteur ne fait pas du bon travail, vous pouvez aller prendre rendez-vous avec lui et lui dire qu'il fait du mauvais travail. Voilà.
Et je veux dire à ce sujet, donc moi j'ai une permanence, en fait c'est un bureau, hein. C'est un lieu où les gens savent que, parce que je mets des affiches un peu partout, je fais des journaux, donc je laisse un numéro de portable qui est celui de ma collaboratrice et les gens peuvent appeler pour prendre rendez-vous avec moi. Et je dois dire qu'il y a très peu de jeunes en réalité dans ma permanence qui prennent rendez-vous, c'est plutôt des femmes. Plutôt des mamans qui viennent, beaucoup, qui viennent pour des problèmes de logement, des problèmes d'emploi, des problèmes liés aussi au titre de séjour, qui viennent beaucoup. Et c'est vrai que les jeunes, faut plus que j'aille les voir, que je cherche les occasions pour les rencontrer, parce qu'ils passent assez peu la porte de la permanence.
Très bien. On va revenir un peu sur votre parcours, parce que tout à l'heure, on parlait du début de votre engagement politique, donc qui s'est renforcé avec les luttes contre le CPE, mais aussi en 2005, le traité européen. Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà pourquoi est-ce que ces causes vous ont touché à l'époque, en quoi elles ont participé à votre engagement politique et le regard que vous portez sur ces deux questions, c'est-à-dire le rôle de l'Union européenne aujourd'hui et l'emploi des jeunes, la précarité des jeunes, par exemple.
Alors... Moi, sur le TCE, donc le traité constitutionnel européen, qui était déjà franchement très compliqué à expliquer à l'époque, mais il y avait un référendum. Donc, on devait poser la question à la population, est-ce que vous êtes pour ou est-ce que vous êtes contre ce traité constitutionnel européen? Moi, j'étais clairement comme une grosse partie de la gauche contre ce traité.
Hormis le PS.
Hormis une partie du PS. Mais le PS, il y avait des militants PS qui étaient contre à l'époque.
Mais je crois que le PS en tant que parti...
Voilà, en tant que parti, lui était pour. Et moi, ce qui m'a beaucoup marqué à cette époque, c'est deux choses. D'abord, le fait que même si c'était très compliqué, c'était un texte très compliqué, en fait, il y a eu un tel enjeu que les gens, eh ben, ils se sont organisés pour essayer de comprendre et de pouvoir choisir. Alors que dans les médias, vous entendiez plein de politiciens qui expliquaient, mais en gros, qu'est-ce que les gens peuvent y comprendre ? Eh bien, en fait, il y a eu plein d'espaces organisés pour que les citoyens, ils puissent savoir et ils puissent se former eux-mêmes à essayer de comprendre ce qu'il y avait dedans. Et la deuxième chose qui m'a marquée, c'est que il y a une partie de la gauche qui s'est unie, et celle qui défendait le non, et qui vraiment a joué le jeu du rassemblement. Qui s'est dit, moi par exemple, à mon parti politique à l'époque, c'était Marie-Georges Buffet qui dirigeait le Parti communiste, et elle avait le droit à un temps de parole à la télévision, et elle a dit, eh ben, ce temps de parole, je vais le partager avec les autres, parce que plus on sera nombreux et différents à dire pourquoi on n'est pas d'accord, plus eh ben, on ira toucher plein de gens. Et ça, c'est quelque chose qui me reste très présent aujourd'hui, c'est-à-dire que j'ai beau appartenir à un parti politique, j'essaye toujours de me dire... Si on est d'accord sur l'essentiel, alors c'est important qu'on se montre nombreux et divers, parce que c'est comme ça qu'on a le plus de chances d'aller convaincre d'autres. Donc ça, ça reste très présent dans mon parcours politique. Et puis après, il y a une lutte, donc un an après le TCE, sur le CPE, donc le contrat première embauche, qui touchait les jeunes. Et là, j'étais à la fin de mes études. Et bon, très clairement, ça a organisé la précarité dans l'emploi des jeunes. En gros, c'était un premier boulot, et à ce premier boulot, on avait le droit de vous payer moins, on avait le droit de vous jeter comme un peu comme un Kleenex. Et ça a fait une très, très grosse lutte étudiante et lycéenne. Et surtout, c'est une dernière des très grosses luttes qui a été victorieuse. On a gagné et ils l'ont fait voter, mais ils ont quand même retiré le projet. Et j'avoue que ces derniers temps, c'est assez dur d'expliquer justement à des jeunes comme vous qu'en se battant, on va gagner. Parce qu'il y a plein de luttes qui ne marchent pas. Donc, moi, je me raccroche beaucoup à ça. Ça fait un peu dinosaure. En 2006, nous avons réussi. Mais il y a des moments où ça fonctionne.
Il y a des moments où on peut gagner les luttes, ouais. Mm-hmm. On a parlé avec les infos du coup, de l'Union européenne un petit peu par rapport au traité de 2005. Est-ce que, par exemple, Tatiana, est-ce que tu sais le rôle de l'Europe aujourd'hui ? Non, pas du tout. Bah, par exemple, l'Europe, ils font voter des lois et des fois, la France va être obligée de les accepter. C'est-à-dire que le droit européen est plus fort que le droit français. Par exemple, moi, je travaille sur les paris sportifs. Je fais de la prévention auprès de jeunes comme vous sur les dangers des paris sportifs. Et en fait, si aujourd'hui, il y a autant de pubs de paris sportifs que s'il y a si peu de réglementation, c'est parce que l'Union européenne est pour la concurrence libre et non faussée et permet à toutes les entreprises qui font du pari sportif de prospérer comme ça. Donc voilà, en fait, ça sert à ça. C'est pour ça qu'il y a des luttes aussi contre cette Europe-là. C'est parce qu'on peut faire un petit peu ce qu'on veut. Par la suite, je voulais vous demander, du coup, on a parlé un petit peu de vous, de votre engagement, mais j'aimerais qu'on comprenne quel est votre cheval de bataille, s'il y en a un, ou quelles sont en tout cas les questions qui vous sont chères et que vous voulez porter en politique.
Oui, je dirais alors, beaucoup, évidemment, parce que plus on rencontre de gens qui nous parlent de leur combat ou de leurs problèmes, plus en vrai, au fur et à mesure, on est aussi convaincu que ça devient un sujet important. Tout à l'heure, je parlais de ma permanence ou de ma circonscription. Les gens, ils viennent beaucoup me voir, par exemple, sur des questions de logement, sur le fait que soit ils ne trouvent pas un logement où ils vont pouvoir payer un loyer un peu normal qui correspond à leurs revenus, soit ils ont un logement qui est insalubre, soit ils ont un logement où ils vivent à 7 dans un F3, par exemple. Et donc, aujourd'hui, par exemple, on ne construit pas assez de logements à des prix abordables. Donc ça, ça fait partie des sujets qui, forcément, de par l'endroit d'où je viens, c'est un sujet que je porte pas mal. L'éducation aussi, et notamment l'éducation prioritaire. Donc l'éducation prioritaire, est-ce que ça, vous voyez ?
Non.
Vous avez entendu parler des REP ou des REP+, des établissements REP.
Scolaires, non ?
Non. Les établissements classés REP, c'est les établissements qui sont dans un endroit qu'on nomme éducation prioritaire, c'est là où globalement il y a le plus de besoins. Donc on va retrouver le plus de gens dans des situations de pauvreté ou de précarité. Et donc on estime que là où il y a plus de besoins, il faut mettre plus de moyens. Et donc aujourd'hui, pendant tout un temps, on a considéré que oui, il fallait mettre plus de moyens. Et ce qu'on constate au fur et à mesure, c'est qu'en fait, on retire petit à petit des moyens justement à cette éducation prioritaire. et que dans le même temps, bah, les inégalités scolaires, elles continuent d'augmenter. Et que, bah, par exemple, les enfants qui viennent d'un milieu social, j'aime pas le terme défavorisé, mais disons pour se faire entendre, ceux qui viennent, ils n'ont pas les mêmes, ils n'ont pas les mêmes chances au départ pour pouvoir comprendre les codes scolaires, pour pouvoir avoir aussi être immergé dans un univers culturel, avoir des parents qui sont hyper présents ou qui peuvent payer, par exemple, des cours particuliers. Donc, ils n'ont que l'école. Et il faut que l'école, elle soit encore mieux dans ces endroits-là, encore plus présente en tout cas. Et donc ça, c'est quelque chose pour lequel je me bats beaucoup comme militante, mais aussi à l'Assemblée nationale. Et enfin, parce qu'il faudrait en citer que trois, toutes les questions liées à l'immigration. Tout simplement parce que je déteste les discours ambiants qui sont empreints de racisme et qui stigmatisent les étrangers.
Très bien. Les filles, je ne sais pas si vous avez su, mais il y a eu du coup une dissolution de l'Assemblée nationale et des nouvelles élections législatives. On en a parlé un petit peu. Est-ce que vous avez suivi cette période ?
Pas trop.
Pas trop ? Vous n'y êtes pas intéressée ?
Pas du tout.
Est-ce que vous avez compris ce qui s'est passé ou pas ? Ce que Macron, il a fait ?
Avec la dissolution. Est-ce que ça, vous avez compris ce que c'était cette dissolution, par exemple ? Si je vous dis dissolution de l'Assemblée nationale, est-ce que ça vous parle ? C'est pas une interro, hein, les filles.
Tout simplement, ça veut dire qu'il y a des députés qui sont élus. Et Macron, il a dit maintenant, tous les députés ont perdu leur siège. Il va y avoir des nouvelles élections. Et si vous voulez récupérer votre siège, eh ben, il faut être réélu. Donc par exemple, oui. Elsa Fossillon, elle avait déjà son siège de députée. Et elle a été réélue, ce que je disais, dès le premier tour d'ailleurs.
Normalement, l'élection, c'est pour 5 ans. L'élection d'un député, c'est pour 5 ans, comme le président de la République. Et donc, il y avait eu des élections en 2022. Donc normalement, on devait y en avoir qu'en 2027. Mais le président de la République peut dissoudre l'Assemblée nationale, peut faire une dissolution. Et donc là, il l'a fait en 2024 en disant « il faut que les Français aillent revoter ». Et il l'a fait dans un moment qui était particulier, parce qu'il l'a fait dans un moment où l'extrême droite était très très haute. Donc le danger, c'était quand même que ça soit pareil. Ils n'ont pas changé d'avis en 3 semaines, les gens. Donc il y avait ce risque-là, que moi j'ai trouvé un pari fou et qui mettait en danger aussi... très concrètement, notre démocratie, mais aussi très concrètement nos vies, quoi.
Et donc, je ne sais pas si vous avez su, mais du coup, on a un nouveau Premier ministre. Vous connaissez son nom ?
Non.
Il s'appelle Michel Barnier. Donc, c'est un monsieur qui est de droite. Donc, il y a eu une alliance entre plusieurs partis de politique de droite pour, on va dire, empêcher la gauche d'accéder au pouvoir, puisque c'est l'union des partis de gauche qui est arrivée en tête lors des élections législatives. Ça, vous y aviez suivi ou pas ?
Ouais.
Oui, ça vous savez. Alors, et du coup, comme il y a des personnalités politiques qui trouvent que ce n'est pas juste ce qui s'est passé, il y a notamment des partis de gauche qui appellent à une motion de censure contre le gouvernement. Est-ce que vous savez ce que c'est une motion de censure ?
Non.
Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est, Elsa Fossillon ? Et est-ce que vous pouvez aussi nous dire si vous êtes favorable ou pas à cette motion de censure à l'égard du gouvernement Barnier ?
Alors, d'abord, je réponds oui, et je l'ai votée, la motion de censure. En fait, une motion de censure, elle peut intervenir à plusieurs moments. Peut-être que vous avez entendu parler du 49-3. Est-ce que ça vous parle ?
Ouais.
Le 49-3 ?
Ouais.
Ok. Donc ça, le gouvernement, par exemple, à un moment, il peut dire, puisque l'Assemblée soit n'arrive pas à se mettre d'accord, soit ça traîne trop longtemps, soit en fait on n'a pas envie qu'il se prononce, comme ça s'est passé au moment de la réforme des retraites, 49-3. Donc les discussions s'arrêtent et en fait c'est le gouvernement qui reprend la main. Bon, ça c'est le 49-3. Suite à un 49-3, on peut dire mais nous attendez, on est l'Assemblée nationale, vous nous avez empêché de décider, vous avez voulu décider tout seul, alors on vous censure, par exemple. Et donc là, il faut qu'il y ait des députés qui réunissent 58, je me trompe pas, d'un seul coup j'ai un doute, 58 signataires, 58. Je crois. J'ai un doute d'un coup. Hein. 58, j'ai un doute entre 58 et 68. Signatures de députés pour dire on veut faire une motion de censure. Et là, c'est discuté. Et en revanche, pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait plus de 289 députés qui disent je vote la motion de censure, auquel cas ça fait tomber le gouvernement. Donc il faut qu'il y ait un nouvel... Le gouvernement, lui, dans ce cas-là, n'existe plus. Donc il n'y a plus Michel Barnier, Premier ministre, il n'y a plus les ministres qu'il a nommés. Et il faut que le président de la République... reconstitue un nouveau gouvernement. Voilà ce que c'est la motion de censure qui donc dit ce gouvernement, en gros, on ne lui fait plus suffisamment confiance pour pouvoir diriger l'avenir du pays. Ça va, c'était clair ça
oui.
ou pas
oui.
Okay.
Maintenant, on va parler de votre actualité politique. En juillet dernier, vous avez présenté un rapport d'information concernant la surpopulation en prison. D'ailleurs, vous étiez ce matin même à la prison de Bois d'Arcy. Est-ce que vous pouvez nous parler de la situation en prison, de cette surpopulation et de tout le système répressif français plus globalement ?
Oula, je vais essayer de me limiter dans le temps et vous n'hésitez pas à me couper si vous voulez poser des questions sur la prison, parce que la prison, souvent, c'est un milieu qu'on connaît mal et souvent aussi un espace où on projette beaucoup, un peu de fantasmes et parfois aussi de fausses informations. Parce que moi, si je ne regardais que la télé, j'aurais l'impression que la prison, finalement, c'est juste un univers où de temps en temps, ils font du karting ou de temps en temps, ils ont des activités de loisirs ou alors uniquement sur quand il y a un drame. Par exemple, quelqu'un qui va s'échapper de prison. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on est dans un moment où on n'a jamais eu autant de détenus dans les prisons françaises et qu'il y a une très grosse surpopulation. Donc là, par exemple, la prison où j'étais, normalement, il y a 500 places. Et en fait, il y a 500 cellules. Et en fait, il y avait 880 détenus. Donc ça veut dire que dans des cellules, parfois ils sont deux, parfois ils sont trois, parfois ils sont quatre. Donc ça, c'est la vraie réalité des prisons en France, où on enferme à la fois des gens qui ont été condamnés, mais aussi beaucoup, beaucoup de gens qui, en fait, sont en attente de leur condamnation. Donc, attendre un procès, et parfois, ça peut durer 2 ans, 3 ans, 4 ans, et ils sont en attente de ce procès. Et donc, les prévenus, eux, ils forment une grosse partie des gens qui sont en détention aujourd'hui. Et la surpopulation, le problème, vous imaginez bien, quand vous êtes 3 là où il faudrait être 1, il y a des problèmes d'hygiène, il y a des problèmes de promiscuité. Dans une cellule, vous allez avoir un toilette dont la porte ne ferme pas complètement et vous êtes 3 dedans. C'est aussi de la tension, parce que quand vous êtes 22 heures sur 24 dans une cellule avec 2 autres personnes, vous pouvez imaginer que ça ne se passe pas tranquillement, d'autant qu'il y a le fait d'être très enfermé et tout ça. Alors on pourrait se dire, c'est bien fait pour eux. Voilà, il y en a peut-être qui pensent comme ça. Alors la première chose, c'est que... D'abord, il faut se dire que la prison et l'objectif qu'on lui fixe, c'est à la fois effectivement le fait d'avoir un temps où la personne n'est plus totalement dans la société avec les autres, mais qu'il faut que ce soit un temps utile. Parce que le but, c'est que la personne, elle revienne pas plus brisée qu'elle ne l'était avant, mais au contraire, que puisse y avoir eu un parcours qui améliore et qui permette qu'il se réinsère ensuite dans la société. Et ce que je constate avec la surpopulation, c'est que la prison, elle permet pas justement ce parcours de réinsertion dans la société, et même plus grave encore, parfois elle brise encore plus les personnes. Et finalement, les personnes qui ressortent, ça a été non seulement un temps pour rien, mais un temps pire encore pour ces personnes. Donc en termes de lutte contre la récidive, c'est vraiment mauvais, quoi. Voilà ce que je peux en dire. Et puis ensuite, on a un système aussi aujourd'hui dans l'échelle des peines. Donc est-ce qu'on juge que tel délit nécessite 6 mois d'emprisonnement, est-ce que tel délit nécessite 2 ans d'emprisonnement, etc. Y a des choses qui, franchement, à mes yeux, en tout cas, ne vont pas. Et on pourrait dire que tel délit n'a pas besoin de prison, par exemple, mais plutôt d'un stage citoyen qui existe par ailleurs. Mais la réponse est trop souvent la prison.
Trop systématique.
Trop systématiquement, trop souvent la prison. Et ce qui fait que, en réalité, alors qu'il existe plein de peines alternatives qui seraient plus efficaces pour réinsérer les personnes, il y a cette case prison qui permet un peu aux gens aussi de dire « dormez tranquille, on vous protège hein, ». Avec l'idée « c'est les méchants, on vous protège ». Et moi, j'ai envie de dire aux personnes, c'est pas que je veux faire peur, mais en réalité, ces discours-là, dites-vous que ils sont plus dangereux qu'autre chose, parce que vous êtes tranquille pendant 2 ans parce que la personne est enfermée, mais c'est bien pire parce que vous n'avez rien réglé et vous avez même parfois aggravé la situation. Donc voilà, les discours trop simplistes sur cette question-là, je trouve qu'il faut s'en méfier.
Très bien. Les filles, est-ce que vous avez des questions sur la prison ? Non, tout est compris. Très bien, c'est moi qui vais vous poser des questions maintenant. Maïlys, dis-moi, quand tu dois t'informer, est-ce que tu regardes BFM TV, Hugo Décrypte, etc. Quels sont les médias par lesquels tu t'informes ?
Mon père.
Ton père ?
Oui.
Donc t'as pas de médias à toi. T'écoutes ton père, c'est ton père qui te dit les informations. Ouais. Tatiana, même question ?
Les réseaux sociaux.
Lesquels ?
Instagram.
D'accord. Et tu suis des journaux, par exemple, sur Instagram ?
Non, mais dans le fil d'actualité, on voit ce qui se passe.
D'accord. Est-ce qu'il y a des médias que tu vois qui reviennent souvent ? Que tu connais, que tu pourrais me citer ? Non ? Anissa, toi, comment tu t'informes ?
Ma grand-mère.
Ta grand-mère, ouais. Vous parlez beaucoup de ce qui se passe, actualité, etc.
C'est elle, elle parle.
D'accord. Et toi, tu l'écoutes. C'est bien déjà. Et, en fait, donc voilà, les grands médias qu'on connaît, j'ai parlé un peu de BFM TV, etc. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à ça, qui s'informent de cette façon. Mais Elsa Fossillon, elle a travaillé, elle était co-directrice de 2018 à 2021, si je ne me trompe pas, de rédaction du magazine Regard. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce qu'est le magazine Regard et pourquoi est-ce que c'était important pour vous de travailler dans un média ou d'avoir une voix médiatique?
Bon, déjà, il y avait un truc de départ personnellement qui faisait que je m'intéresse beaucoup à la question de l'information. Je pense un peu comme ça arrive à plein de jeunes, j'ai pensé être journaliste pendant un temps quand j'étais étudiante. Donc déjà, il y avait un truc de départ où j'aimais bien ça. Et donc quand on m'a proposé de rejoindre la rédaction de ce magazine, forcément, j'en étais satisfaite, d'autant que c'est un magazine et physique, papier et en ligne, qu'un magazine à la fois de gauche, mais aussi qui a des liens avec les communistes. Donc pour moi, c'était un peu, ça mêlait un peu toutes mes passions, tous mes engagements. Et donc là, pour le coup, c'est vraiment très éloigné de BFM, parce que ça va être des articles assez longs. Il y a de l'enquête, mais il y a aussi des points de vue avec... un peu des experts, des intellectuels qui viennent intervenir dedans et qui parfois font des contributions dedans. J'ai conscience qu'on ne peut pas penser que maintenant, dans l'univers médiatique, qui pour vous touchez, il n'y aurait que BFM ou Regard. Voilà, que le choix, c'est entre un média de chaîne en continu qui nous abreuve de faits divers, de choses comme ça, ou un truc où parfois, il faut lire un article de 12 pages pour s'informer. Moi, j'aime bien qu'il y ait des articles de 12 pages et je pense qu'il faut qu'il y ait des médias où il y ait des articles de 12 pages. Mais je pense qu'il faut des choses intermédiaires qui permettent aussi que, vous puissiez à un moment vous informer, même parfois avec 5 lignes ou avec 5 phrases ou avec 10 lignes. Et après, à vous, en fait, d'aller piocher dans ce qui vous semble intéressant. Moi, j'ai tendance à dire après, évidemment, qu'il faut plusieurs sources. Voilà, faut aller vérifier de temps en temps, mais la vérification, elle peut se faire au travers d'une discussion avec quelqu'un d'autre. Ça peut être ta grand-mère, ça peut être ton père, mais peut-être que la seule source, ça peut ne pas être ton père et la seule source, ta grand-mère, même si c'est des bonnes sources. Mais en tout cas, évidemment, bah, peut-être qu'un jour, tu vas découvrir, je ne l'espère pas, que tu n'es pas d'accord avec ton père. Ça peut arriver. Et donc, je trouve que c'est important d'aller aussi voir différents points de vue. Donc moi, j'aimais bien Regard parce que c'était le même regard que moi sur la société. Mais on a le droit d'avoir plusieurs regards sur la société. D'ailleurs, c'est Regard avec un S. Et donc, voilà. Mais je veux dire, moi aussi, je m'informe avec les réseaux sociaux aujourd'hui. C'est-à-dire que je suis plutôt d'une génération, quoi qu'elle ait en bascule là-dessus, qui avait plutôt tendance à acheter un journal. Mais à la fois, je me suis très bien faite au fait aujourd'hui d'avoir mon portable et puis de regarder, alors moi un peu plus Twitter peut-être que vous, mais aussi Instagram, aussi TikTok, parce que je retrouve pas toujours les mêmes informations aussi. Et ce que je trouve riche, par exemple, dans Instagram ou TikTok, c'est que ça me permet aussi de m'informer pas simplement via des journalistes, mais via tout simplement des gens qui décident de nous raconter un pan de leur vie. Par exemple, il y a des sujets comme ça sur la santé mentale qui ne seraient peut-être pas arrivés dans le débat public s'il n'y avait pas eu des gens sur TikTok ou sur Instagram qui en parlaient. Et franchement, les journalistes avaient beau en parler sur plein de pages, ça touchait personne parce que c'était un sujet tellement intime qu'il fallait que ça arrive par la voie de l'intime pour que ça nous touche et pour qu'on s'en préoccupe. Donc moi, je trouve que faut qu'il y ait cette richesse qui continue d'exister, quoi.
Très bien. On va parler d'un autre sujet, du racisme. Les filles, est-ce que le racisme, c'est un sujet qui vous touche ?
Oui.
Oui.
Est-ce que vous sentez, par exemple, des fois on dit que la France est un pays raciste, est-ce que c'est quelque chose que vous sentez ? Est-ce que vous avez déjà vu des regards, des mots qui vous ont laissé penser qu'il y avait du racisme à votre égard ? Ou du sexisme, comme vous êtes des femmes ?
Oui.
Oui. Les deux ?
Oui.
Les deux.
Les deux. Elsa Fossillon, le Parti communiste, un parti qui se veut antiraciste et féministe, on voit qu'on est dans une période où les idées racistes et très très conservatrices sont assez populaires. Quelle riposte face à ces idées-là ?
Je crois que c'est peut-être la plus dure question.
Je sais,
D'abord, je constate aussi que, effectivement, dans la parole publique, Il y a beaucoup de propos racistes qui sont proférés. Parce qu'il y a les actes racistes que vous vivez, qui peuvent être par la parole, par des agressions, par des injures. Enfin voilà, il y a plein de façons. Mais il y a aussi ce qui structure vos vies. Et est-ce que ça, on peut dire qu'il y a du racisme qui structure, par exemple, justement la justice ou la police ou même dans l'administration? Est-ce qu'il y a des choses qui, de manière évidente, ont des biais racistes, quoi? Et moi, je constate que oui, encore. Et en plus, on a un discours, je trouve, parfois... C'est pas pour accuser les médias, parce que je suis très fan du fait qu'il y ait des médias, et il en faut plus. Mais je constate que dans ceux qui sont aujourd'hui tenus par les milliardaires et qu'on voit à longueur d'antenne, y a des propos racistes presque toutes les semaines, quoi. Je peux penser à CNews, à d'autres, où oui, tranquillement...
CNews a été condamné pour ça, donc on peut
exactement.
Le dire de toute façon.
Mais où très tranquillement, je sais plus, l'autre jour, j'ai entendu un truc, ça allait super vite. C'était, on peut faire pas Emily in Paris, mais Emily
in
Bangladesh.
Que comme à Kaboul,
et que Trapp, c'était comme à Kaboul. Mais enfin,
il y a un chroniqueur qui a dit ça, tout à fait.
Et ça passe presque tranquille. Et ça ne va pas forcément à l'ARCOM, d'ailleurs, qui est censé normalement imposer des sanctions si jamais il y a des propos racistes à l'antenne. Et puis, on a un ministre de l'Intérieur aujourd'hui, vous ne connaissez peut-être pas encore, Bruno Retailleau, qui est quelqu'un, par exemple, l'année dernière, après la mort de Naël, quand il y a eu soit ce qu'on appelle les émeutes, soit ce qu'on peut appeler des rébellions, a parlé des jeunes qui étaient dans les quartiers en disant qu'ils régressaient vers leurs origines ethniques.
Quoi ?
Ce qui est, ouais.
Oui, il a dit ça.
Donc il a dit ça. Ou quand il a parlé, par exemple, de la colonisation, il a dit qu'il y avait eu des belles heures de la colonisation. Donc, vous voyez un peu le personnage, et c'est lui qui, aujourd'hui, est le ministre de l'Intérieur qui a remplacé Gérald Darmanin. Donc, forcément, alors même que les gens ont voté en 2024 aux élections législatives pour dire on ne veut pas que l'extrême droite et donc ses idées gouvernent, on a quelqu'un qui, certes, ne s'identifie pas comme étant à l'extrême droite, mais qui, très clairement, défend ces idées-là en étant le ministre de l'Intérieur. Donc, celui qui, quand même, va diriger les ordres pour la police en France. C'est un peu inquiétant.
Hein ouais, inquiétant. Ça va, mais...
Et donc, moi, ce que je crois, c'est que d'abord, pour lutter contre le racisme, il faut déjà, ça va paraître bête, mais se battre contre le racisme, donc en faire un sujet politique. Et ne pas penser que le racisme, c'est juste une question morale. Ça serait juste une question où on dit, c'est mal quand il y a une agression, c'est mal quand il y a une injure. Évidemment, il faut le faire. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Mais penser aussi comment ça organise les rapports de pouvoir. Ça se fait que, aujourd'hui, en réalité, le racisme fait aussi, par exemple, que on maintient des millions de gens dans la pauvreté et la précarité. Admettre que c'est une vraie lutte sociale, l'antiracisme. Et donc ça, je crois que on peut compter sur la gauche pour dénoncer des faits de racisme. Après, lutter contre le racisme en le pensant comme organisant ou structurant des rapports de pouvoir, alors on a des marges de progression, je dirais, à gauche, pour le placer vraiment comme une lutte sociale et faire en sorte de pas minimiser ce sujet-là comme étant un sujet à part entière, autant que le partage des richesses, peut-être.
Très bien, je vous remercie. Emmanuel Macron avait identifié l'égalité femmes-hommes comme la grande cause de son quinquennat. Est-ce que les filles, vous sentez, vous, une discrimination vis-à-vis des hommes ou est-ce qu'au contraire, vous sentez totalement égale aux hommes?
Égale, moi.
Égale totalement?
Ouais, moi.
Non.
Oui. Toi aussi? Mais alors, ça veut dire que ça, c'est dans le travail, c'est pas forcément à l'école ou etc. C'est dans le monde du travail, je sais pas si vous savez, les femmes sont en moyenne moins payées que les hommes.
Oui. Mm-hmm. Mais de façon générale.
Dans la vie, quoi.
Vous devriez avoir l'égalité.
Oui.
C'est ça que vous vous dites.
Bah, oui.
Voilà,
ouais.
Exactement.
Oui.
Mais du coup, c'était la grande cause du quinquennat d'Emmanuel Macron qui avait dit, voilà, moi, je veux que sous mon règne, l'égalité homme-femme soit vraiment effective et qu'il n'y ait plus aucune discrimination des hommes par rapport aux femmes. Des femmes par rapport aux hommes, pardon. Le lapsus. Quel est votre regard par rapport à ça, les oppositions? Est-ce que vous pensez que c'est une réussite ou au contraire, qu'il a complètement raté?
C'est pas simplement est-ce qu'il a raté. Alors il a raté, oui.
Est-ce qu'il a essayé déjà?
Oui, c'est ça en fait. C'est que à chaque fois qu'il annonce maintenant qu'il y a une grande cause, j'ai peur, quoi. Parce que généralement, ça va pas être très bien traité. Bon, d'abord, il faut le rappeler quand même. Emmanuel Macron, il annonce grande cause et en même temps, il a eu plusieurs ministres qui ont été accusés eux-mêmes, par exemple, d'agressions sexuelles et qu'il a laissés en poste. Donc déjà, ce n'est pas très bon signe. Quand, et même qu'il a défendu.
Gérald Darmanin étant Gérald Darmanin, le cas le plus connu.
Exactement, avait... mais bon, on avait Nicolas Hulot avant. Et puis, par exemple, il n'y a pas très longtemps, il a expliqué que Gérard Depardieu était la fierté de la France. Donc forcément, ce n'est pas bon signe déjà quand on annonce qu'on va faire grande cause en défendant les femmes et qu'on vient défendre des gens qui sont justement accusés de viol et qu'il y a des femmes qui se sont exprimées à plusieurs, même pas que une, on pourrait déjà la croire toute seule, mais plusieurs avec des faits, avec un faisceau d'indices qui fait qu'au bout d'un moment, bah, on se dit oui quand même il y a...
Je peux savoir combien de personnes ?
Alors sur Gérard Depardieu...
C'est plusieurs dizaines en tout cas, c'est beaucoup beaucoup de femmes qui ont porté plainte contre lui, ouais, parce que ça remonte sur des années et des années, donc effectivement il y a beaucoup beaucoup de femmes qui ont porté plainte d'agression sexuelle ou de viol contre Gérald Depardieu.
Et par exemple, il y en a où il y a eu un classement sans suite, je pense à Gérald Darmanin, mais en revanche, il a même lui-même avoué que quand il était élu, il avait demandé ce qu'on appelle des faveurs sexuelles contre un logement.
Quoi ?
Oui, donc, tu as bien entendu.
Ça, en fait, ben, ça n'est pas jugé comme étant illégal. En revanche, considérer qu'on peut avoir un ministre de l'Intérieur qui avoue lui-même en gros, avoir dit à une dame bah, « si vous me faites ça, je vous donnerai un logement », normalement, il ne devrait pas être là. Donc, vous voyez déjà ça, moi, je ne peux pas supporter. Ça me fait même mal aux oreilles quand j'entends Emmanuel Macron dire « je suis celui qui a fait de discrimination, de la cause égalité homme-femme, une grande cause nationale », parce que déjà par ses actes, qui devraient être des actes forts, symboliques, il n'était pas au rendez-vous, il était même pire que pas au rendez-vous, il était du mauvais côté de l'histoire. Et puis ensuite, sur le plan plus concret, les associations féministes, celles qui viennent en aide aussi à toutes les femmes victimes de violences, eh ben, elles demandaient, par exemple, la première année, en 2017, qu'il y ait 1 milliard qui soit consacré à la lutte contre ces violences. Maintenant, on est plutôt à 2,5 milliards d'ailleurs. Et les efforts étaient toujours à la traîne du point de vue financier pour permettre réellement ça. Puis, dernier exemple, avec mon groupe, on avait fait le dépôt d'une proposition de loi à l'Assemblée nationale pour lutter contre ce qu'on appelle le temps partiel subi. Temps partiel subi, ça va être tous ces petits boulots qui sont, enfin petits, c'est pas qu'ils sont petits en soi, c'est beaucoup de secteurs de travail où on va imposer des temps partiels, donc des temps plus courts, subis, ce qui n'est pas un choix, et souvent avec des heures un peu entrecoupées. Donc par exemple, les femmes de ménage qui vont venir sur les lieux de travail faire le matin, puis le soir, ou dans d'autres secteurs de la sécurité, par exemple. Et ce temps partiel subi, c'est largement les femmes, en fait, qui les exercent. Et c'est largement là, en fait, qu'il y a la différence de salaire. C'est ce qui crée la différence de salaire entre les hommes et les femmes. Et donc, nous, on voulait pénaliser les employeurs qui usent de trop de ces temps partiels subis. Et par exemple, bah, les députés de Macron, ils ont refusé d'adopter ce texte de loi. Donc voilà quelques exemples pour dire à quel point ça continue de me faire mal aux oreilles quand j'entends Macron parler de la grande cause.
Très bien, je vous remercie. Une petite question aussi. Votre secrétaire général Fabien Roussel s'est rendu à l'université du MEDEF cet été. Donc le MEDEF, c'est le syndicat des grands patrons, donc des personnes les plus riches de France, on peut dire. Et il y a déclaré respectueux des entreprises et a affirmé « Nous avons une ambition commune, un projet partagé, celui de remettre le travail au cœur de la société ». Ce type de déclaration n'est-il pas contradictoire avec votre engagement ?
Disons que je ne crois pas que j'aurais formulé les choses comme ça. Qu'il aille à l'université du MEDEF, à partir du moment où ce n'est pas son seul lieu, son seul espace d'expression politique, ça ne me gêne pas. Il faut des fois aller discuter aussi pour organiser la confrontation. Donc, ce n'est pas ça qui me choque. La question, c'est d'être en capacité aujourd'hui d'identifier aussi assez clairement comment le travail peut être un espace aussi où les gens subissent de la souffrance, de l'exploitation, de l'humiliation, des discriminations. Ça ne veut pas dire que c'est que ça, le travail. Mais là, on est devant des patrons qui sont syndiqués au MEDEF comme patrons. Et je trouve que ce discours-là, pour essayer de dire que nous aussi, on aime l'entreprise, je trouve que c'est à manipuler quand même avec parcimonie, je dirais, parce que oui, il y a des entreprises où ça se passe bien, mais enfin, globalement, ce qu'on remarque, en tout cas aujourd'hui, c'est que le partage de la valeur, il se fait plutôt au profit soit des patrons, soit des actionnaires, plutôt que des salariés. Donc, j'ai vu aussi là qu'il participait en brandissant une affiche sur l'initiative « J'aime mon entreprise ». J'essaie d'expliquer, parce que souvent la gauche est accusée de tout le temps critiquer les entreprises. Mmh. Hein, il y a un peu ce biais-là. Nous, on est du côté des salariés, pas des entreprises. Bon, d'abord, j'assume le fait qu'on est d'abord du côté des salariés. Ça, c'est pas un problème. Ensuite, effectivement, on peut distinguer plusieurs types d'entreprises. Et moi, j'ai pas de souci à dire qu'il faut plus aider les petites entreprises que les très grosses entreprises. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans l'économie telle qu'elle existe à l'échelle du pays, on a tendance à favoriser les très grosses entreprises et on donne plein d'argent public à des entreprises qui n'en ont pas besoin et qui, en plus, souvent, exploitent déjà leurs salariés, parfois même font des licenciements, ne sont pas vertueux. Donc, je suis pour un système qui est plus vertueux.
Je peux juste ajouter qu'aujourd'hui, on n'a quasiment aucun contrôle sur ce que les entreprises font, même si on leur donne beaucoup d'argent public. Ça veut dire que l'État français donne de l'argent à des entreprises privées, mais qu'après, elles en font ce qu'elles veulent et qu'elles ne sont pas obligées de garder les employés, de ne renvoyer personne, etc. Elles font absolument ce qu'elles veulent. Et donc, très souvent, on remarque qu'elles n'ont pas fait ce qu'elles s'étaient engagées à faire.
Alors que, par exemple, les gens qui sont en recherche d'emploi, on va venir les contrôler beaucoup, on va leur demander beaucoup de conditions, alors qu'on ne leur donne pas grand-chose, mais on va leur dire... Là, on va leur demander en plus de travailler 15 heures par semaine gratuitement. On va leur demander de remplir des papiers tous les mois. Alors que des très grosses entreprises à qui des millions vont être donnés, on leur demande rien. Et c'est même des entreprises qui parfois licencient, mais aussi vont détruire la planète au travers de leurs activités. Donc, si vous voulez, moi, j'ai pas de souci à d'abord défendre celles et ceux, justement, qui sont les plus vulnérables. Et donc, j'avoue que le côté « j'aime ma boîte » ou « les entreprises sont formidables », j'ai pas de souci à dire que oui, l'entreprise peut être aussi un lieu d'épanouissement, mais enfin, je suis pas sûre que dans le discours ambiant, ce soit ce qui est le plus porteur à défendre quand on est de gauche.
Très bien, je vous remercie. On arrive sur la fin de l'émission, donc on va passer sur une dernière question. Il y a un conflit en ce moment au Proche-Orient. Est-ce que vous vous y intéressez, les filles, notamment entre Israël, la Palestine et le Liban, plus récemment. Qu'est-ce que vous en savez? Vous pouvez nous dire deux mots de ça? Non? Vas-y, Maïlis.
C'est, pour moi, c'est un peu genre comme si on faisait une vidéo de quelqu'un qui se fait tuer, qu'on nous l'a montré, mais qu'on ne mettait pas en prison la personne qui l'a tué.
J'aime beaucoup la métaphore. C'est vrai que ça ressemble beaucoup à ça. Et effectivement, on voit que les voix pro-palestiniennes sont assez difficiles à entendre en France, qu'elles sont même parfois réprimées dans les universités. Elsa Fossion, vous qui êtes dans un parti qui lutte traditionnellement pour la libération du peuple palestinien, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'on peut faire en France pour lutter, ce que vous faites au Parti communiste pour lutter pour la cause palestinienne?
D'abord, déjà d'en parler, parce que vous avez raison, les voix palestiniennes, elles sont invisibilisées, silenciées, c'est-à-dire réduites au silence, et que c'est très clairement ce que cherchent celles et ceux qui, justement, colonisent les terres palestiniennes. Si on ne les entend pas, alors on peut continuer la colonisation tranquillement. Donc, vraiment, c'est un des modes opératoires dans un système colonial, faire en sorte que celles et ceux qui sont colonisés ne soient pas entendus et soient déshumanisés. Et ça se voit beaucoup aujourd'hui, ça se voyait d'ailleurs, ça se voit depuis des décennies, pas simplement depuis le 7 octobre, mais même si les massacres perpétués le 7 octobre étaient absolument affreux, tout ça n'a pas commencé le 7 octobre. Et ce qui est vrai, c'est que déjà, il y avait une volonté de réduire au silence et de déshumaniser les Palestiniens et Palestiniennes. Donc s'y intéresser, en parler, donner à voir ce qui se passe là-bas, même si des fois, honnêtement, moi-même, je ne regarde pas toutes les images parce qu'elles me hantent. Il y a des manifestations qui existent, qui ont lieu très régulièrement. Il y a en parler sur vos réseaux parce que ça compte aussi de faire entendre le fait qu'on n'est pas d'accord avec ce qui se passe et on n'est pas d'accord avec le fait que la France n'agisse pas, n'use pas de son pouvoir d'intervention pour différentes choses, pour faire un embargo sur les armes, même si Macron en a parlé, pour stopper des coopérations avec Israël. Parce qu'il y a un truc qui est sûr, c'est que si le gouvernement israélien pense qu'il peut continuer tranquillement et qu'il n'a pas plus à perdre qu'à gagner en continuant, alors il continuera pour s'étendre de plus en plus et pour réprimer tous les obstacles qui existent sur son passage. Et puis après, il y a des opérations. Alors moi, je ne peux pas appeler à ça totalement, mais en tant que militante, je participe à des boycotts aussi, faire en sorte qu'il y ait les produits en fait, les produits israéliens qui sont produits sur les terres colonisées, ne pas les acheter, par exemple. Ça, ça fait partie de choses, même si c'est criminalisé la plupart du temps. Mais en tout cas, moi, c'est des choses que je fais. Mais en tout cas, pas se résigner à l'idée que, bah, que tout ça est fini, que de toute façon, ils ont tout rasé et qu'il n'y aura jamais d'espoir. Il y a des situations qui semblent désespérées, mais en fait, il faut savoir que les Palestiniens, en plus de leur lutte incessante, ils ont très bien conscience que leur seule voie de salut, c'est aussi la solidarité internationale, faire que d'autres en parlent, et que si eux, ils sont invisibilisés, alors nous, on doit prendre le relais.
Très bien, je vous remercie. Les filles, est-ce que vous avez une dernière question pour Elsa Fossillon ?
Non,
non, ça va aller. Ça vous a intéressé l'émission ? Ça vous a plu ?
Ouais.
Ok, super. Merci beaucoup à toutes les
Merci
trois.
À
Merci
vous.
À Anissa, Tatiana et Maëlys d'avoir participé toutes les trois. Merci à Elsa Fossillon d'avoir
Merci
participé
beaucoup.
À cette émission du 17 octobre 2024 avec du coup forcément une pensée particulière à tous les défunts, les Algériens qui ont été envoyés dans la Seine par la police française le 17 octobre 1961 et une grosse pensée pour leur famille, pour leur descendance, etc. Merci beaucoup. C'est de la fin de cette émission. Merci à tous et à toutes.
Merci.